Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Diwa 107.5. Vous êtes sur RDIWA. Et c'est le grand retour de CCC, comme c'est ça la classe. Vous connaissez cette émission désormais après le flash info de RFI qui vient de se terminer. On a un tout petit retard à l'allumage, mais il faut redémarrer après de longs mois de vacances, qu'on a un peu prolongé puisqu'on est quand même fin novembre. Je vous rappelle le principe, un professeur entouré d'un certain nombre d'élèves, plus d'une dizaine cette année, une équipe entièrement renouvelée, ou presque, puisqu'il nous reste un vétéran, Jimmy. Bonjour Jimmy.
Bonjour
Jimmy
à tous.
Qui était en seconde l'an dernier et en première scientifique cette année. Et tous les autres, on va essayer bien d'être sympa avec eux et de les accueillir chaleureusement autour de cette table. Ils vont peut-être rapidement se présenter, juste après vous avoir rappelé pour les novices, mais vous êtes déjà des fidèles, le principe de l'émission. Nous sommes en train de débriefer l'actualité, nous allons débriefer l'actualité. Ce sera désormais une fois par mois, notez bien le rendez-vous, systématiquement chaque dernier mercredi du mois. Une petite exception pour le mois prochain puisque c'est Noël, mais je vous en reparlerai en fin d'émission. Donc prenez l'habitude, c'est 12h10, 13h10, on prolonge un petit peu. 1h60 minutes de débriefing de l'actualité en direct sur 107.5 avec ces lycéennes et ces lycéens qui vont se présenter rapidement avant que je vous annonce le sommaire de l'émission. Nous avons notamment à la technique Lilou. Bonjour.
Bonjour.
Ensuite, je vous laisse vous présenter.
Lucien.
Mathieu.
Lou.
Louis ensuite.
Ouais, salut.
Roman.
Ilan.
Quentin.
Clémence.
Flora.
Et Marion.
Et je crois qu'on n'a oublié personne. Donc vous voyez une équipe pleine de peps. Et c'est reparti. Donc nous sommes déjà au C'est ça la classe CCC numéro 22, saison 3. Et nous allons parler de trois sujets aujourd'hui. Je vous rappelle le principe à la fin de l'émission, un petit peu en vrac et à la carte et au choix de nos différents chroniqueurs, chroniqueuses et chroniqueurs. On fera un petit coup de cœur, coup de gueule de l'actu des mois passés, on peut dire des mois maintenant, puisqu'on s'était quitté fin mai, début juin. On parlera probablement de Rosetta, cette sonde, est-ce que ça sert à quelque chose ou à rien du tout, est-ce que ça coûte trop cher, en plus il y a eu quelques bugs, d'aller sonder l'espace et d'aller voir s'il se passe quelque chose sur les comètes, loin de chez nous. On parlera peut-être des portables et des mouchards que certains parents mettent sur les portables de leurs enfants, ou encore de la journée de la gentillesse, c'était il y a quelques semaines, est-ce que c'est un gadget, est-ce que ça ne sert à rien, ou après tout, il n'y a pas de mal à se faire du bien, et pourquoi pas un sourire, et pourquoi pas la bienveillance. Avant ça, comme d'habitude, trois sujets que nous allons détailler davantage. On terminera l'émission en parlant des prix, les prix Goncourt, les Césars, les Victoires de la musique, est-ce que ces prix servent à quelque chose, est-ce qu'il y a trop de prix, ou est-ce qu'ils sont prescripteurs, et est-ce que quand on connaît le prix Goncourt, eh bien on achète le livre, le César, est-ce qu'on va voir le film? On parlera de ça, on verra si nos jeunes autour de la table, si les adolescents d'aujourd'hui se fient à ces différents prix ou s'ils sont totalement indifférents, ce genre de choses. Dans un deuxième temps, d'ici un quart d'heure à peu près, nous parlons de l'amitié. Est sorti un film qui a fait beaucoup parler il y a quelques semaines de cela, un film de Mélanie Laurent, la jeune réalisatrice et comédienne, qui s'appelle Respire, où elle évoque une amitié quasiment toxique, où l'une étouffe l'autre et qui se termine mal, c'est ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Est-ce qu'on peut trop aimer ou est-ce que ça n'a pas de sens? On ne peut pas trop aimer, l'amour est forcément positif, on verra ce que nos jeunes en pensent. On va commencer par un premier sujet, on ne pouvait pas ne pas en parler, ça occupe l'actualité depuis plusieurs semaines, et on colle encore plus à l'actualité aujourd'hui, puisqu'on vient d'apprendre ce matin que l'Europe était en train de sanctionner la France qui avait été trop vite pour le barrage de Siévinz, donc c'est tout chaud. Un jeune qui meurt sur le barrage de Siévinz, un jeune étudiant dans le Tarn, de l'eau pour des agriculteurs qui, selon certains, ne seraient pas assez nombreux et tout ça pour ça, et qui abîmerait l'environnement et l'agriculture. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut totalement abandonner ce projet-là? On a d'un côté des besoins d'agriculteurs, ils sont importants pour la vie en France et la vie tout court. À l'inverse, certains les accusent de mettre trop de nitrates ou de pesticides dans l'eau. Alors d'un côté des écologistes, de l'autre les agriculteurs qui ont besoin de vivre et de faire vivre leurs exploitations. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et puis accessoirement, mais malheureusement ça n'est pas accessoire, hein, évidemment, bien au contraire, la mort de cet étudiant lors de ce barrage et de cette manif. Est-ce que vous avez suivi un peu ça? Quel est le premier qui veut prendre la parole? Peut-être Jimmy, le grand, l'aîné, qui va montrer la voie aux plus jeunes.
Ouais, l'ancien. Non, moi je pense que ça retire beaucoup de choses, et notamment que les étudiants soient morts, ça montre une certaine erreur par rapport à la construction de ce barrage. Comment quelqu'un peut être mort sur ce barrage, sachant que c'était quand même quelque chose qui est censé retenir l'eau? Alors qu'est-ce que ça pourrait être s'il y a des centaines de litres d'eau derrière et que le barrage craque et que tous ceux qui sont en dessous se retrouvent ensevelis? Je trouve que c'est un peu n'importe quoi.
Donc toi, tu penses qu'il faudrait définitivement renoncer?
Ouais, définitivement renoncer au projet.
Bon, et comment on fait alors pour aider les agriculteurs qui ont besoin, semble-t-il,
ils peuvent l'acheminer
d'aménagement par... du territoire, on va dire.
Ils peuvent l'aménager par d'autres moyens. Ils peuvent détourner le cours d'eau et puis en fait, créer justement un affluent qui serait justement réservé à ces agriculteurs, créer un petit bassin qui serait réservé pour eux. Contrairement de, retenir tout un cours d'eau qui risque, avec lesquels il y a des risques immenses.
Alors, on sait qu'on a un fidèle agriculteur, qui était en tout cas un fidèle de CCC l'an dernier. On vient juste de commencer. Je ne sais pas s'il a eu vent du démarrage aujourd'hui, mais qu'il n'hésite pas à nous appeler. Je suis sûr qu'il a plein de choses à nous dire, ou n'importe qui d'autre. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle, j'ai oublié de le faire, donc je rattrape très vite cet oubli, que le 0952 368 531, 0952 368 531, c'est le numéro du standard, il vous est ouvert. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que disent les jeunes, ou d'accord, vous pouvez nous appeler et nous vous répondrons sans souci. Quelqu'un d'autre veut intervenir là-dessus? Peut-être pour relancer le débat, certains agriculteurs sont accusés d'utiliser trop de nitrates, de pesticides et de polluer l'eau eux-mêmes. Ils répondent à l'inverse qu'il y a trop de normes européennes et qu'elles sont trop contraignantes et qu'on ne peut plus rien faire et plus rien produire en France. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que vous avez des gens dans votre famille qui sont agriculteurs, agricultrices? Ça peut arriver? Non?
Donc moi, je suis plutôt d'accord avec toutes ces normes. Parce que c'est certes, ça leur limite leur possibilité d'action au niveau des pesticides, etc. Mais on ne sait pas encore exactement tous les effets que ça peut avoir. Et on sait, pour le peu qu'on sait, que c'est complètement négatif. Donc moi, je pense que c'est quand même une bonne idée de garder ces lois et contre tout ce qui est pesticides.
Oui, Jimmy.
Surtout que l'année dernière, dans le programme de seconde, on a vu que les agriculteurs biologiques, avec certaines méthodes, arrivaient à produire autant, voire plus, que des agriculteurs qui utilisaient les pesticides et les organismes génétiquement modifiés.
Est-ce que vous pensez, de façon plus globale, que l'environnement, le respect de l'environnement, on en parle beaucoup. Mademoiselle Flora, tu peux t'asseoir, hein? Non, tu ne veux pas. Flora est au garde à vous, mais elle est jeune et dynamique, donc autrement une chaise l'attend sans souci. Je vous laisse les coulisses, nous ne sommes pas filmés, mais vous savez tout. Oui, de façon plus générale, est-ce que c'est compatible la défense de l'environnement, la protection de l'environnement et la production agricole qui... peut-être pas en France, dans d'autres pays, vous le savez. On parle souvent de l'Espagne, notamment, hein, les producteurs de fraises, c'est toujours l'image classique qu'on donne, mais où il y a beaucoup de pesticides, où on a vu des reportages qui faisaient un peu peur sur la qualité des fraises, vu le nombre de produits qui leur étaient balancés dessus. Est-ce que c'est pas un peu ça le souci aussi, le côté productivisme? En même temps, il faut bien nourrir les êtres humains. Donc, est-ce qu'on peut concilier les deux, ou est-ce que définitivement vous pensez qu'il y aura d'un côté les écologistes, c'est un peu caricatural, mais pas tant que ça, et de l'autre les agriculteurs, dont certains peuvent être écolos sans problème. Et normalement, d'ailleurs, la nature, c'est leur préoccupation aussi. Donc, est-ce que c'est compatible, ça, ou est-ce qu'on n'y arrivera pas? Pessimiste ou optimiste, les secondes? Roman.
Moi, pessimiste, je pense que c'est possible de concilier tout le monde, mais il faut juste,
les deux y fassent. Le micro comme un esquimau, comme disait Christophe de Chavannes, comme si tu suçais une glace. On t'entendra mieux.
Il faut juste que les deux y fassent des efforts et qu'il faut qu'il y ait des compromis, quoi.
D'accord, compromis, oui, c'est un peu le mot-clé. Mais les compromis, c'est quoi? Là, dans cette décision, Jimmy disait, par exemple, alors c'est un peu compliqué, hein, comme question. Moi, si j'étais au gouvernement, d'une certaine manière, dis-moi si je trahis ta pensée, mais je supprimerais définitivement cette affaire de barrage. Mmh. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça, ou est-ce que certains pensent que le projet a quand même été validé dans un premier temps par l'Europe? Alors, c'est un peu curieux, parce que j'ai cru comprendre ce matin que maintenant, elle semblait dire que la France n'avait pas pris assez de précautions officielles pour pouvoir le permettre. Mais comment on fait quand un projet est lancé, quand il y a de l'argent, quand il y a des entrepreneurs qui ont commencé les travaux, puisque c'est quand même largement avancé, si j'ai bien compris? Est-ce qu'on peut reculer? Est-ce que c'est pas un recul politique aussi? Si vous étiez politique, est-ce que vous auriez pas l'impression que vous retournez un peu votre veste? J'ai un peu provocateur là, mais si on arrêtait subitement ce barrage.
Certes,
maintenant qu'on a dit oui.
Certes, d'un côté il y a eu de l'argent, du travail. De l'autre côté, c'est des vies quand même. Donc je pense que la question ne se pose pas vraiment. Pour moi, l'arrêt du barrage, c'est quand même quelque chose qui est obligatoire.
Puis faut pas oublier qu'un projet reste un projet, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait, ils le font dans le but que ça se finisse. Parce que si jamais ils se rendent compte qu'ils sont plantés, qu'ils sont trompés, ils peuvent toujours l'annuler, même si ça fait perdre de l'argent. Et au lieu de perdre de l'argent à faire des projets qui sont quasiment inutiles, parce que dans le fond, même si ça servait pour l'agriculture, ils peuvent trouver d'autres moyens qui sont beaucoup plus simples qu'un barrage. Donc pour moi, ils peuvent toujours, oui, changer, même si c'est un certain recul politique et que c'est certainement retourner un peu sa veste, en quelque sorte. Mmh.
sur la mort de Rémi Fraisse, cet étudiant. Est-ce que tous les combats, même les plus nobles, doivent avoir ce genre de conclusion? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors c'est un sujet un peu compliqué, parce qu'il y a ceux qui récupèrent peut-être un petit peu l'affaire en disant que c'est une bavure de la part des policiers, voire de l'État. D'autres qui disent qu'ils savaient que c'était dangereux, mais enfin de là en mourir à 20 ans, je crois, c'est peut-être un peu trop. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et là, il faut savoir qu'il est mort donc, d'une grenade. Déjà, ce n'est pas des vraies grenades explosives qui jetaient les policiers quand il est mort. En fait, il est mort d'une grenade sur la tête, parce qu'elle est tombée sur lui.
Mais qui vont être interdites à partir de maintenant. Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé. Donc,
Mais c'est des fumigènes, en fait, à la base, surtout pour éloigner les gens, pour ne pas venir à la violence, parce qu'on sait que généralement, ce genre de manifestation peuvent toujours dégénérer et ça peut même arriver à frapper les forces de l'ordre. Alors qu'à la base, ils ne viennent pas avec agression, ils viennent surtout pour contenir le mouvement. Donc là, il est mort d'une grenade fumigène qui est tombée sur lui. Et donc, effectivement, c'est une erreur de la part des gendarmes, enfin, ou des forces de l'ordre qui en gros devaient protéger cette zone. Mais d'un autre côté, s'ils ont été obligés de faire ça, c'est que derrière, ça, les gens ne devaient pas être non plus pacifistes. Pour moi, c'est qu'un accident.
Donc, il y a une part de responsabilité de la part des manifestants, d'après toi.
Oui, pour moi, ils ont même plus de responsabilité.
Alors, peut-être pas de Rémi Fraisse en particulier, mais en même temps, il était là, il avait choisi d'être là, mais bon.
Pour moi, plus que même les forces de l'ordre.
D'accord. Oui, Mathieu.
Moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose par rapport à la bavure policière, c'est que, en fait, lui en particulier a peut-être rien fait, mais c'est quand même une manifestation qui était assez violente. Parce que sur France 2, il y a deux semaines, j'ai vu un reportage et il balançait sur les policiers des cocktails Molotov quand même. Et deuxièmement, je crois que c'était pas une grenade fumigène, il me semble que c'était une grenade offensive.
C'était
une grenade offensive, effectivement. Oui, Jimmy a peut-être dit fumigène, mais non, tu as raison.
Donc l'agression était des deux côtés, donc les policiers ils sont peut-être allés un peu fort, mais les manifestants aussi.
Alors après, c'est toujours l'éternel problème. Certains ont dit à l'inverse du camp des manifestants que c'était parce que les policiers venaient et qu'ils prenaient ça comme de la provocation. Bon, en même temps, les policiers sont là pour protéger.
C'est normal, chacun prend son
c'est
parti,
très compliqué,
le parti de son camp. Quoi.
Est-ce qu'il fallait ne mettre aucun policier là-bas? C'est pas forcément non plus une bonne idée, parce qu'il y avait beaucoup de monde et peut-être un peu jeune et dynamique, sans rien dire d'autre, sans aller jusqu'à dire peut-être ce que tu dis, mais tu as sûrement en partie raison, excité ou violent. Je ne sais pas, je n'y étais pas. Mais c'est vrai que les images sont parfois un peu contradictoires aussi, selon le point de vue duquel on est. On a vu du côté des policiers, on a vu du côté des manifestants et des témoignages des deux parts, bien sûr. Et le ministre qui est dans son rôle lorsqu'il défend, entre guillemets, le travail qui a été correctement fait, a priori, par les policiers.
Pour moi, c'était quand même extrêmement violent pour qu'ils en viennent à ce moment-là. Et donc, il y a une part de responsabilité de chacun, parce que normalement, si c'était une manifestation, la France est un pays libre, donc on a le droit de s'exprimer. On n'a quand même non plus pas le droit de détériorer quelque chose que l'État est en train de construire, même si ça ne nous plaît pas. Donc pour moi, si c'est une manifestation et qu'ils ont dû aboutir justement à l'intervention des forces de l'ordre, et même agressive des forces de l'ordre, c'est qu'ils avaient dépassé les limites.
D'accord. Un dernier mot sur ce sujet? Non.
Je voulais dire que je pense que...
C'est Ilan, pardon, qui s'exprime.
Oui, c'est moi. Et donc,
oui, c'est lui. Oui, Ilan, c'est moi. C'est une chanson, mais vous êtes trop jeune pour connaître ça. Il s'appelait C'est Jérôme. Oui, Jérôme, c'est moi. Là, c'est oui, Ilan, c'est lui. Nous l'écoutons.
Oui. Donc, je pense que ça manque de discussion entre les deux camps. Parce que, bon, pour en venir là, à des grenades lancées, des morts, c'est un peu... Moi, je trouve ça un peu disproportionné par rapport à la situation. Et pourrait y avoir juste simplement des discussions, essayer de trouver des moyens, ça... Pour que tout le monde puisse être d'un côté content et OK sur ce point. Et donc, à mon avis, les zadistes, comme ça qu'on les appelle, je crois.
Oui.
Oui, voilà, sont un peu, ont une idée un peu fermée, anti-barrage complètement, sans vouloir forcément trouver des solutions et... sont peut-être un peu violents sur le point, parce qu'il y a quand même des besoins des agriculteurs qui sont importants, et pas que pour les agriculteurs.
Donc quand même, hein, autour de la table, si je fais un peu la synthèse, vous êtes plutôt, pas aussi blanc et noir que ça, mais plutôt du côté, enfin pas du côté des manifestants, quoi, que vous trouvez un peu excessif, et jusqu'au boutiste, parce que ça fait un moment qu'ils y sont.
Totalement excessif pour moi. Pour une manifestation, reste une manifestation, ils n'ont pas à avoir recours à la violence qu'ils ont eue. Moi, j'étais pas très au courant sur le sujet, mais il a carrément dit qu'il y avait des cocktails Molotov. C'est quand même une arme utilisée pendant la guerre, donc maintenant, D'accord, peut-être qu'ils auraient pas, ils auraient peut-être pas dû jeter des grenades comme ça sur les gens et tuer un innocent civil. Sauf que eux, en jetant des cocktails Molotov, ils étaient très bien capables de tuer les forces de l'ordre.
D'accord. Lucien, tu voulais dire quelque chose ? Non, tu ne veux plus. Lucien me faisait signe.
Ilan a répondu à la question, du coup.
D'accord, Ilan a répondu à la question, très bien. Je ne sais pas si nos nouveaux techniciens en chef sont en mesure de nous envoyer un petit jingle, une petite virgule musicale, sans couper notre direct. Vous pourrez écouter normalement notre direct grâce à ces mêmes techniciens en podcast très bientôt. Non, on me dit. Lilou ? Autrement, si on n'a pas de virgule, on enchaîne, c'est pas grave. Bon, on va enchaîner sur le deuxième sujet. Vous aurez peut-être une virgule musicale entre le deuxième et le troisième. Excusez-nous, excusez-les, parce qu'on est dans une équipe totalement renouvelée. On fait nos armes à la radio. Moi aussi, et moi beaucoup d'ailleurs, sur le plan de la technique. Je suis un peu plus à l'aise au micro. Et merci en tout cas aux lycéens qui ont accepté d'être plutôt dans la partie technique. Mais évidemment, ça n'interdit pas à eux d'intervenir. On vient d'entendre Lucien et Mathieu tout à l'heure. On va passer donc au sujet numéro 2 sur l'amitié. L'amitié, a priori, c'est une valeur positive. Et pourtant, il peut exister des amitiés toxiques, des amitiés qui étouffent l'autre. C'est le sujet du film Respire de Mélanie Laurent, qui a eu un assez grand succès en salle. Je ne sais pas si certains ont pu aller le voir au cinéma. Non, vous avez entendu parler de ce film. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, petit à petit, devient très, 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 très amie et très proche d'une autre. Et la deuxième finit par être complètement sous l'emprise de la première. On appelle ça une perverse narcissique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'aime tellement qu'elle projette toute sa propre vie sur l'autre jusqu'à l'étouffer, jusqu'à rendre effectivement toxique, hein, le mot est fort, mais c'était écrit dans beaucoup de critiques de ce film, critiques au sens neutre du terme, et le film a plutôt rencontré un grand succès et beaucoup de gens sont venus voir à la fin des projections la réalisatrice et les actrices pour leur dire j'ai vécu ça à l'école, j'ai l'impression que c'était ma vie que vous racontiez, j'ai eu une amie comme ça qui n'en était pas une, vraiment une et qui avait l'ascendant sur moi, qui me torturait mentalement. Alors est-ce qu'on peut trop aimer? Ou est-ce que par définition c'est un oxymore? Les lycéens vont comprendre, hein, une alliance de mots contradictoires. Est-ce que c'est impossible de trop aimer? Ou est-ce qu'on peut mal aimer? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Et en particulier dans l'amitié, est-ce que vous avez déjà vécu, sans forcément entrer dans votre vie trop personnelle, mais observer des choses comme ça au collège ou au lycée, d'amis qui ont une emprise très forte sur un autre? En général, c'est des duos, hein, c'est vraiment une amitié proche. Donc du coup, c'est plutôt à deux que ça se passe, et pas au-delà. On peut avoir plus qu'une amie, bien sûr, mais est-ce que ça vous parle? Est-ce que l'amitié, ça n'est que positif et que toujours une belle histoire?
Alors pour moi exactement le cas qui a été cité, donc d'amitié toxique, non, pour moi, enfin moi je vois pas comment ça pourrait exister en soi. Mais après, d'amitié qui soit pas vraiment réelle, d'une personne qui aime vraiment une autre alors que l'autre s'en désintéresse un peu, ça c'est un cas qui arrive assez souvent, je pense. Donc dans ce cas là une amitié n'est plus positive, parce que déjà, enfin dans le sens, pour la personne qui ne l'aime pas, ça peut devenir très très lourd. Et pour l'autre personne, quand elle le découvre, ça peut devenir très dur à porter, je pense.
Voilà. Puis ce ne serait pas une amitié, parce qu'à partir du moment où on commence à se détacher de la personne avec qui on était, peut-être les meilleurs amis du monde, à partir du moment où on commence à se détacher d'elle et qu'elle commence à, entre guillemets, nous énerver, il faudrait quand même lui dire, voilà, pour pas que ce qu'ils disent, elle l'apprenne un jour. Et quand, généralement, quand on l'apprend et que ça fait un moment qu'au final, ça nous trotte dans la tête quand même, parce qu'elle a les réactions qui vont avec. Je pense que ça peut être très dur.
Est-ce qu'on peut ne pas arriver à rompre avec quelqu'un dont on est ami parce que c'est trop difficile et que c'est compliqué d'aller dire bah non, maintenant je veux plus te voir parce que justement tu me rends plus malheureuse ou malheureux que je ne le serais sans toi? Difficile à dire ça. Un peu comme en amour d'ailleurs, mais ça vous est déjà arrivé ça de devoir rompre en amitié? Vous êtes un peu jeune, vous êtes en plein dans les amitiés, donc c'est peut-être juste le début d'eux. Enfin, j'espère jamais de rupture, mais ça peut arriver. Oui, Lou?
Je pense justement que c'est ça le problème, parce que même si on n'apprécie pas spécialement une personne, qu'on a passé beaucoup de temps avec elle, au bout d'un moment on se rend compte qu'elle ne nous apprécie pas ou que nous on ne l'apprécie pas vraiment. Mais juste le fait de rompre avec une personne avec qui on a passé beaucoup de temps, je pense que ça peut être vraiment très difficile. Moi j'ai jamais eu d'expérience comme ça de ce genre, mais je pense que ça peut laisser des mauvais souvenirs ou des traces, quoi.
D'autres témoignages? Quentin peut-être? Pardon, te réveiller pendant la sieste, Quentin? Non, c'est l'heure de manger, hein, c'est difficile. Nous sommes en direct, je vous le rappelle, mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, auditeurs de Radio D-Way, il est 12h31, hein, c'est la preuve. Il pleuvait il y a encore quelques minutes et le soleil semble légèrement se lever. C'est pour vous prouver qu'on est bien en direct. Et en ce moment, si vous êtes à 10, vous entendez les cloches de l'église. Donc vous voyez, nous ne trichons pas, ce n'est pas un montage. Nous sommes bien en direct sur Radio D-Way Et Quentin, comme c'est l'heure du repas, il avait tendance un peu à s'assoupir, mais c'est pour ça que je me permets, je plaisante, de le faire intervenir. Donc l'amitié, est-ce que ça n'est que positif ou est-ce que ça peut devenir toxique, étouffant et destructeur au final ? Sans qu'on s'en rende vraiment compte, parce que c'est progressif, ça, évidemment, c'est fait de manière un peu perverse, ça s'appelle des pervers narcissiques, alors dans un cas un peu extrême. Mais moi j'ai été frappé par le nombre de gens qui, d'après la réalisatrice, venaient la voir à la fin en disant c'est ma vie, quoi. Parce que franchement, j'ai vu le film, c'est sacrément noir hein, et sombre. Surtout la fin, je ne veux pas la déflorer, mais j'espère qu'il n'y a pas autant d'histoires que ça que dans le film quand même. Je sais que ça existe, hein, malheureusement, mais alors toi, quand
Moi, j'ai pas vu le film, mais après, je pense pas que ça peut devenir toxique. C'est quand même un mot assez
fort.
Ouais, assez fort, et je pense pas que ça qu'on puisse lier ce mot à l'amitié, parce que je sais pas. Enfin, une amitié, quand on est ami avec quelqu'un, c'est
réciproque.
Oui, c'est réciproque, mais il n'y a que du positif. Quand on est ami avec quelqu'un, on partage des bons moments avec, on fait des sorties. Enfin, voilà, le mot toxique, je pense pas, on ne peut pas l'employer dans ce genre de...
Le mot toxique en lui-même est peut-être un peu fort pour parler d'une amitié, mais une amitié n'est pas toujours rose. Et bien des fois, tu vas te disputer avec ton pote, même si t'as passé des super moments avec lui. Il y a bien des fois où vous ne serez pas en accord, et même si ce n'est pas une dispute, vous allez être fâchés l'un contre l'autre. Tu ne peux jamais être à 100% d'accord avec quelqu'un.
Oui, ça c'est sûr, mais bon, je ne pense pas...
Ça fait partie des petits soucis quotidiens. Voilà, on n'en est pas au point de l'histoire du film.
On n'en est pas juste dans la toxicité, oui, c'est sûr.
La toxicité, oui, ça se dit, tu as raison.
Oui, je suis d'accord sur le fait, les points qu'ont abordé Jimmy.
Lucien.
Une amitié, c'est censé être... donc ça peut être... on peut s'engueuler entre amis, on peut être pas d'accord avec ce que pourrait dire l'autre, mais ça peut pas devenir aussi. On peut pas prendre un ascendant sur l'autre si on parle vraiment d'amitié, quoi, je pense.
Ouais, moi je pense qu'il y a un moment, en fait, on parle plus d'amitié, mais on parle de manipulation, quoi. Enfin, le film que vous parlez là, ça va pas l'air d'être une amitié vraiment. Enfin, c'est juste.
Au début, oui.
De lavage de cerveau bizarre, ça a l'air.
Mm-hmm. Si, au début, c'est une amitié, mais après, la personne qui commence à manipuler ne peut pas être considérée comme une amie. À partir du moment où on commence à manipuler une personne parce qu'on voit qu'elle nous aime beaucoup, c'est tyrannique. C'est plus une amitié.
Marion ?
Ben moi je suis d'accord, c'est sûr que le terme de toxique, il est un peu trop fort et trop puissant, mais après une amitié, c'est un peu comme l'amour, c'est pour le meilleur et pour le pire, donc on peut s'engueuler, mais après on peut aussi revenir et ben ça revient comme avant quoi.
Alors pour le pire, dans une certaine limite quand même, hein, parce que si vous allez voir le film, vous allez voir que la fin, c'est franchement pour le pire. Ça peut pas être pire. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Bien sûr qu'il y a des hauts et des bas et qu'on peut pas être tout le temps... Et c'est peut-être ça qui fait le sel de l'amitié aussi, de l'amour, que c'est pas plat et linéaire du début à la fin de l'histoire. Ouais, si fin il y a, il peut ne pas jamais y avoir de fin. Quentin, n'oublie pas de parler comme si c'était un chocolat glacé.
Ouais, c'est bien. C'est bien. Enfin, ça fait partie aussi de l'amitié, des fois qu'il y a un peu des disputes et tout, parce que sinon, bah... on s'ennuie un peu, quoi.
Ça se dit encore, chocolat glacé ?
Je sais pas.
Non.
Ou je suis vraiment trop vieux, c'est ce qui me semblait, j'ai vu vos têtes bizarres. Comment vous dites une glace, tout simplement ?
Une glace au chocolat.
Oui, mais ça fait pas la différence entre la glace avec boule et la glace cornée, et la glace, tu sais, enveloppée, là, industrielle. Esquimaux, on appelait ça.
Ouais.
Esquimaux, ça vous connaissez ? C'est bizarre, ça me paraissait encore plus... Oui. Bon, c'était une parenthèse totalement inintéressante. Nous allons écouter un problème de terminologie. Flora, peut-être, qui n'est pas intervenue encore et qui a certainement un avis sur l'amitié. On a tous un avis sur l'amitié.
Pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de très important. Mais je pense que c'est très compliqué de se séparer d'un ami parce que on passe beaucoup de temps avec lui en général, et je sais que j'ai une amie qui avait une forte emprise sur une autre, et du coup l'amie qui celle qui avait une emprise,
la manipulatrice, comme ouais, a dit tout à l'heure, je crois c'était Roman, ouais.
Bah, la manipulatrice, elle se sentait au-dessus de tout le monde, quoi. Donc, je sais pas, je pense que ouais. C'est pas bon pour...
C'est le côté narcissique, hein, ce que les psys appellent la perverse narcissique, c'est la partie narcissique, c'est-à-dire... En fait, la personne s'aime plus que tout au monde, et elle voudrait que l'autre lui ressemble ou fasse exactement ce qu'elle veut. Enfin, il y a une forme, effectivement, de marionnette et de poupée.
Après, c'est quand même autre chose. C'est pas que l'amitié, c'est aussi le caractère de la personne.
Là, il y a un problème psy, il faut dire les choses clairement.
Elle sera toujours narcissique, elle se trouvera toujours plus puissante que les autres. C'est la problème de la personne en général.
Déjà seule. Mais forcément, seul, on se fait un peu moins de mal, enfin, sinon qu'à soi-même, que quand on a une amie ou un ami, c'est clair. Proche. D'autres choses ? Ilan, je crois qu'on n'a pas entendu Ilan, et puis on écoutera Louis juste après.
Oui, bah moi je pense que l'amitié, c'est pas forcément quelque chose, comme vous disiez, de linéaire, que ça peut... Ça peut
si, être... si, Clémence, lui n'échappera pas, pardon Ilan, tu as voulu venir, tu vas parler. Pardon Ilan. Ouais, donc Clémence fait des signes, non, je ne veux pas intervenir. Je t'interromps plus, promis. Ilan.
Oui, je disais que... Ouais, donc l'amitié, je pense que c'est vraiment pas quelque chose de linéaire, comme vous le disiez. Mais qu'il y a des hauts, des moments où ça se passe vraiment bien, des moments de très forte amitié, peut-être même d'amour, et puis d'autres moments où ça passe, et je pense que c'est ça l'amitié, que c'est pas, ça peut pas être tout le temps à fond, ou être tout le temps en fusion avec l'autre. Mais voilà, c'est peut-être au bout d'un moment où l'amitié devient trop forte et trop fusionnelle, trop intensive, ou peut-être que qu'on passe à quelque chose qui est plus vraiment bon en soi pour les deux.
C'est un peu un autre sujet, mais est-ce que tu l'évoquais à l'instant ? Est-ce qu'une amitié peut se transformer en amour ? Est-ce que ça peut arriver, ça ? C'est quoi la différence entre les deux ? Il y a des points communs ?
Je pense qu'il y a une certaine que ça peut se transformer, mais bon, après, ça dépend aussi déjà du sexe de la personne avec qui on est ami. Parce que si on est hétéro et que notre meilleur pote est un homme, je pense pas qu'on arrivera à développer des sentiments amoureux envers lui.
Ça peut arriver, mais c'est plus rare.
Oui, c'est extrêmement rare.
Mais entre deux personnes de sexe opposé, là.
Je pense que ça peut se développer, car au bout d'un moment, on connaît extrêmement bien la personne. Et en gros, c'est comme si on l'avait toujours connue. Mais bon, après, ça veut dire que déjà, dès la base, elle nous plaisait avant qu'on soit amis avec elle. Je pense pas que ça puisse se développer et devenir instantané comme ça. Comme
le temps. Voilà. Ça peut devenir plus ambigu, plus ambivalent. Vous êtes à l'âge des amitiés complètement. Vous êtes aussi beaucoup autour de la table dans la section sport nature au lycée du Diwa, donc interne. Donc j'imagine que c'est aussi un endroit, l'internat, où on est un peu 24 heures sur 24, à la journée avec les professeurs et le soir entre soi, et avec les surveillants, bien sûr, pour être sage et ne pas faire de bêtises dans les couloirs, dans les chambres. Donc il y a des amitiés très fortes, en général, qui se nouent à ce moment-là. Je le sais parce que ça fait... presque 20 ans maintenant que j'enseigne dans cet établissement, je sais qu'il y a beaucoup de retours ensuite, des années après, d'élèves qui disent « oui, c'est là qu'on a probablement rencontré nos meilleurs amis ». Et en tout cas, forcément, nos vies se sont un peu séparées d'ici là, mais ça reste des amitiés très fortes et parmi les premières de notre vie, d'une certaine manière. Est-ce que vous commencez à vivre ça ou pas encore ? C'est un peu tôt, vous venez d'arriver, à part Jimmy qui est là depuis un an. Oui, Quentin, et on écoutera vraiment Clémence juste après, et également Lou, qui trépine derrière le micro.
Je pense que... Là, surtout, ouais, ceux qui sont autour de la table du lycée du Diwa, ceux qui sont à la section, je pense qu'il y a une amitié qui se crée en plus.
Tu en fais partie ?
Oui, j'en fais partie.
Comme tu parles à la troisième personne.
Non, mais oui, j'en fais partie, oui, on, pardon. Et oui, il y a une amitié qui se lie parce qu'on est 24 heures sur 24 ensemble. C'est des chambres de deux, donc on dort dans la même chambre. Et les filles, c'est par quatre aussi, ça dépend. On est 5 jours sur 7 avec, donc on partage beaucoup de moments. Le mercredi après-midi, vu qu'on n'a pas cours, on a des divertissements. Et voilà, je pense que là, au bout de 3 ans, je pense qu'il y a vraiment une amitié entre certaines personnes qui vont se créer et ce sera vraiment une amitié forte, je pense.
Mais quel genre, le divertissement ?
Du foot, du rugby...
On est d'accord, sportif. Savoir.
Oui, des divertissements.
Mais si, je veux tout savoir. Nous sommes là pour ça, bien sûr. Nous sommes en direct, donc on ne peut rien couper au montage. C'est pour ça que vous êtes prudent, vous avez bien raison. Enfin, vous faites beaucoup de sport entre vous et ça développe l'amitié, ça aussi. Ouais. Vous avez bien les crapahuter ou escalader des endroits nouveaux dans le Diwa.
Peut-être un peu dangereux des fois.
Ouais. Clémence et puis Lou.
Je pense qu'on en profite.
Alors Lou d'abord.
Oui, non, c'est juste.
Vas-y, dis ce que tu veux dire parce que tu as la parole. Profite.
Non, on profite juste un maximum le mercredi après-midi, je pense, parce que c'est un moment où justement là, moi, je me sens vraiment bien à 10, puis on est avec plein d'amis. Là, il y a Lucien qui est à côté, c'est génial. On est avec plein d'amis, puis en profiter le mercredi après-midi, je trouve que c'est franchement génial.
C'est dommage qu'on n'ait pas l'image, hein, parce que Lucien à côté a mis une tape amicale sur l'épaule de celui qui est en train de vous parler, Lou. C'est beau. Hein. On va éviter de tomber dans la mièvrerie totale non plus. Mais ça paraissait sincère.
Ça devient de l'amour.
Ah, justement, on l'évoquait il y a quelques minutes. Clémence.
Après, pour moi, moi je sais que ça fait plusieurs années que je suis à l'internat, mais par contre je suis pas sportnet. Mais ce que je peux vous en dire, c'est que c'est vrai que après, au fil du temps, ça devient vraiment une vraie famille. Et bah, c'est, la plupart du, c'est la, le temps qu'on passe le plus à l'internat. Et franchement, c'est vrai que moi, j'ai vu une vraie différence. Après, être avec des jeunes tout le temps, c'est, ça fait vraiment du bien. Parce qu'à cet âge-là, on a un peu du mal avec les parents, souvent. Et du coup, bah, ça détend vachement et c'est vraiment bien, moi, je trouve. Après, voilà.
Ça vous donne envie d'aller le voir, ce film, ou pas spécialement?
C'est pas le genre de film que j'aime, du coup je pense pas que j'irai le voir.
C'est quoi
si
le genre de film que tu aimes?
Moi j'aime plus les films d'action ou bon j'aime pas les films d'horreur hein, donc, mais j'aime plus les films d'action, j'aime pas trop les films comme ça en gros avec
qui parlent des de êtres morale. Humains et de morale parle... Non, il y a pas de morale hein, honnêtement non parce que
ouais, bon, qui parle des êtres humains, fin, je pense que la vie elle vaut mieux le coup d'être vécue que de regarder des films et dire ah j'aimerais juste pas que ça m'arrive hein, voilà.
Et ça permet de faire réfléchir parfois les films sur des choses justement qu'on a vécues, qu'on pourrait vivre. Je dis pas que ça va empêcher que ça se passe, mais non, ça peut ouvrir les yeux parfois.
Ça peut permettre de faire réfléchir ou d'ouvrir les yeux, mais bon, je pense que surtout dans ce cas-là, la personne qui manipule est très bien au courant de qu'elle manipule. Donc voilà.
Bon, moi, je me disais que ça pourrait être une permet de pouvoir éviter de renouveler l'expérience soi-même. Donc regarde ce genre de film, ça. Ça peut permettre de réfléchir justement sur ce qu'on peut vivre avec d'autres et permet de réfléchir sur donc ces sentiments d'amitié avec les autres et justement et réfléchir même pas forcément sur l'amitié, l'amour aussi et pas que l'amour d'ailleurs avec une copine par exemple ou un copain, l'amour paternel et maternel également.
Oui, alors d'ailleurs dans ce film, le portrait qui est dressé, c'est peut-être le petit reproche que je me permettrais modestement de faire. Ce film qui est plutôt bien fait, mais alors c'est toujours pareil, les critiques étaient tellement unanimes que on s'attend dans ces cas-là à voir quasiment un chef-d'œuvre. Bon, le petit souci que j'ai pu avoir, mais bon, ça n'engage que moi, c'est qu'il y a un peu un côté caricatural, ça serait un peu sévère, mais parce que tu parles de la famille, c'est pour ça que je pense à ça. La mère de l'une des filles est une alcoolique. Alors on a vraiment un portrait qui est dressé des deux côtés, en fait, du côté des enfants, du côté des parents aussi. Qui est pas très, enfin qui peut pas être pire que ça quoi. On a un peu l'impression que c'est les misérables parfois. Alors, on sait que ça existe, hein, je ne nie pas la réalité. Mais peut-être qu'elle a un petit peu trop, Mélanie Laurent, forcé le trait sur le pire des tableaux qu'on ait pu avoir. Mais en même temps, bon, c'est sûr que c'est glacial hein, et la fin en particulier est glaciale. Oui.
Ouais.
Mais c'est fait pour.
Pour revenir sur les amitiés destructrices, on peut avoir un autre type d'amitié qui se fait pas entre amis, enfin plus ou moins, mais on peut avoir deux amis très proches. Et ça va blesser une troisième personne, par exemple, qui va se sentir complètement exclue du groupe par cette amitié.
Ça arrive, ça
donc
arrive.
Je pense que ça peut être un autre type d'amitié destructrice.
Un peu trop fusionnelle, parfois. Pas forcément destructrice, mais effectivement, il y a tellement une fusion entre deux personnes qu'ils ont l'impression que le monde n'existe pas autour. D'ailleurs, c'est un peu la particularité, on voyait en point commun avec l'amour, ça. Vous savez, les fameuses premières semaines dont on dit, qui ont quasiment été étudiées scientifiquement, qui font que le couple est dans une bulle, un peu ridicule, l'impression d'ailleurs... qu'il n'y a personne autour et ils marchent dans la rue ignorant totalement les autres, ou ils sont dans une table en famille et il n'y a que deux qui se chuchotent dans l'oreille. Et ça, en général, c'est la phase des quelques premières semaines, un premier mois, et après, et heureusement d'une certaine manière, parce qu'on a l'impression que l'un est esclave de l'autre et vice-versa, et que c'est trop fusionnel. Dans les amitiés, c'est parfois comme ça. Parfois, donc, peut-être qu'on s'empêche de rencontrer d'autres personnes, si on n'est qu'avec une seule. Je ne parle pas en amour, ça c'est la fidélité, mais l'amitié aussi. Comprenez-vous ce que je veux vous dire, jeune Jean?
Ouais.
Merci de m'aider.
Je pense qu'on peut pas être trop fusionnel.
Non.
Je pense que deux personnes.
Et comment on jauge ça? C'est difficile, c'est pas mathématique ça. C'est où est le curseur du trop, du pas assez? J'avais commencé comme ça. Est-ce qu'on peut mal aimer, trop aimer, pas assez aimer ça? Bien sûr.
Deux personnes peuvent être fusionnelles et donc extrêmement bien s'entendre, mais elles ne, comment dire, elles ne. Je pense pas qu'on peut être trop fusionnel. C'est-à-dire que deux personnes peuvent extrêmement bien s'entendre tout en restant avec les autres. Après, le regard des autres est peut-être aussi un regard jaloux, parce que quand ils voient ces deux personnes justement qui s'entendent si bien, qui sont tellement bien ensemble, ils vont peut-être justement envier ces personnes. Et c'est pour ça que notamment les gens vont parler autour, vont dire oui, ils sont trop fusionnels, tout ça. Moi, je pense que deux personnes ne peuvent pas être trop fusionnelles.
Comme une forme de jalousie?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les personnes qui commentent, généralement, ce n'est pas des commentaires... Si, justement, c'est des commentaires bénéfiques, c'est-à-dire qu'ils l'ont remarqué et qu'ils sont contents pour eux. Et c'est des commentaires qui sont un peu méchants ou qui disent ouais, non, ces personnes restent tout le temps ensemble. C'est peut-être qu'ils sont jaloux et qu'ils aimeraient pouvoir rester tout le temps ensemble avec une autre personne et avoir une fusion pareille.
Et d'accord. Donc... Un dernier mot de quelqu'un peut-être autour de ce table du studio de RDY.
Non, merci, ça va pour moi.
Non, merci, a dit Quentin. Alors vous n'hésitez pas, en revanche, c'est oui, bien sûr. Je parle des auditeurs. Vous pouvez appeler. Zéro, c'est pas non, merci, c'est oui, bien sûr. Il vous reste encore presque une demi-heure pour appeler. 25 minutes, 0952 368 531. C'est la première, on ne vous en veut pas, vous allez prendre ce nouveau réflexe. Je le rappelle, chaque dernier mercredi du mois, CCCC, et c'est de 12h10 à 13h10 en direct sur RDY. Et le standard vous est ouvert dès aujourd'hui. 0952 368 531. Notez-le quelque part sur votre calepin et au moins ce sera fait pour les autres... CCC, le numéro 23 à venir, le 17 décembre, on y reviendra tout à l'heure. On passe donc au troisième sujet. Et il s'agit donc, on a dit tout à l'heure, des prix. Est-ce qu'il y a trop de prix en France ? Prix Goncourt, les Césars, les Victoires de la Musique, les Oscars évidemment les plus connus aux États-Unis. Est-ce que ces prix servent à quelque chose d'après vous ? Est-ce que vous, public ado, vous avez tous entre 15 et 17 ans hein, pour faire rapide autour de la table, est-ce que ça vous incite à acheter un livre ? Vous n'êtes pas de grand lecteur a priori, mais démentez-moi si je me trompe. C'est la déformation professionnelle qui fait
vous
ça.
Vous vous trompez. Il y en a beaucoup qui lisent beaucoup. Moi, je lis beaucoup. Et le fait que
je lis beaucoup.
Voilà, il y a tellement.
Je lis beaucoup.
Voilà, il y a plein. On est
ça
beaucoup.
Me fait plaisir d'être démenti.
On est beaucoup de jeunes à extrêmement lire. Et moi, justement, je pense qu'il y a beaucoup trop de prix.
Parce que
déjà,
beaucoup d'adultes, pardon, pensent que vous ne lisez pas. Hein, et en dehors du monde professionnel
ils ont tort.
Que je représente, donc ils se trompent.
Ils ont totalement tort.
D'accord.
Je pense que
c'est une bonne nouvelle.
C'est le point de vue des adultes qu'on lit pas beaucoup, c'est peut-être un point de vue qui vient du fait qu'on lit pas forcément les mêmes choses qu'eux.
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est
donc
ça.
On n'a pas, nous, le même plaisir à lire Le Misanthrope qu'un prof de français, par exemple.
Par exemple.
Un exemple concret. On va donc pas lire le même type de livre, donc forcément.
Je pense quand même objectivement qu'il y a des jeunes de votre âge qui ne lisent absolument rien, parce que
oui.
Je l'ai déjà entendu.
Ouais.
Oui, sans parler du Misanthrope et des classiques, ils ne lisent rien. Il n'y a même pas de magazines, de journaux. J'espère que c'est une minorité, mais Marion.
Pour ma part, je lis jamais, je lis que des BD, c'est tout, mais je ne lis jamais.
Bah voilà un exemple.
Parce que quand
alors les BD, c'est pas mal non plus. Mais
oui, mais bon, quand je lis une page d'un roman, j'arrive à la fin de la page et après je me dis mais qu'est-ce que j'ai lu ? Donc ça m'intéresse pas la lecture. Je lis parce que parce qu'en français on doit lire, mais c'est tout.
D'accord. Donc c'est une obligation.
Il y a des jeunes, mais c'est une caricature parce que tout le monde dit tout le temps oui les jeunes ne lisent pas, mais il y a aussi des vieux entre guillemets qui disent qu'ils ne lisent pas. Je pense que c'est pareil des deux côtés. Il y a beaucoup de jeunes de 16 ans qui lisent autant que ou de 15 ans, excusez-moi, autant que d'autres de 40 ou de 50 ans.
Je pense aussi que la lecture a été remplacée par d'autres activités à part entière. Donc la lecture c'était avant un passe-temps et aussi donc pour pouvoir permettre de s'instruire. Et maintenant il y a les jeux vidéo qui peuvent compenser, il y a la télé, il y a beaucoup il y a plus d'activités au niveau du dehors, donc pour investir les enfants.
Les activités du mercredi après-midi que Quentin évoquait.
C'est exactement ça.
On fait la passerelle entre les deux sujets, c'est pas formidable ? Bien sûr, oui, c'est vrai. Il y a de la concurrence beaucoup plus qu'avant.
Oui.
Où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas les jeux vidéo, ça c'est une évidence. Le prix Goncourt, juste pour une petite satisfaction d'Iwaz, qui a été attribué à Lydie Salvert cette année pour un roman qui s'appelle Pas pleurer, j'avais reçu dans ma classe avec des élèves de première ES, vos ancêtres déjà, en 2008, cette écrivaine qui vient donc d'obtenir en 2014 le prix Goncourt. C'était pour un autre livre qui s'appelait Portrait d'un écrivain en animal domestique. Donc le lycée du Diwa est prescripteur et, sans le vouloir, a annoncé le prix Goncourt quelques années avant. Formidable, Jimmy.
Oui, donc pour en revenir.
C'est sûr que tu aurais posé beaucoup de questions à cette dame, te connaissant
moins,
très bavard dans le bon sens du terme.
C'est sûr. Non, mais pour en revenir au sujet, je pense qu'il y a beaucoup trop de prix. C'est-à-dire que moi, j'en connais pas la moitié, déjà. C'est-à-dire qu'on me dit l'Oscar. Moi, le seul truc que je connais de films, c'est le Festival de Cannes, parce que c'est vraiment connu. Et après, le prix Goncourt, j'ai connu cette année, mais sinon, j'en connais rien. J'en sais absolument rien. Et du coup, c'est pas ça qui va m'engager à lire vers un livre. Surtout qu'il y a des prix qui sont attribués à des livres pour leur morale, par exemple, à la fin, et qui vont que je vais trouver extrêmement long et extrêmement, comment dire ça poliment,
nul.
Ennuyant, ouais, nul, ennuyant à lire, nul. Alors qu'ils ont quand même reçu un Oscar par un jury qui aimait ça. Par exemple, voilà, Madame Bovary, il y a plein de gens qui vont adorer lire ce livre. Moi, j'ai trouvé ça absolument ignoble, et j'étais à deux doigts de ne pas réussir à le finir. Pourtant, il y a plein qui vont dire oui, c'est une œuvre d'art.
Et comme tu es persévérant, tu as laissé les deux doigts de côté et tu as lu jusqu'au bout.
Non, j'ai pas réussi.
Tu as failli nous faire croire que si je t'avais pas repris.
Non,
quand on y était deux doigts de pas finir, c'est qu'on a été jusqu'au bout des deux doigts.
J'ai dû laisser une dizaine de pages à peu près, mais c'était vraiment parce que j'en pouvais plus. C'est-à-dire que ça faisait un moment que je me retenais. Il y a plein de gens qui vont adorer ce livre.
On dirait que tu parles d'un plat indigeste, mais enfin ça ressemble à ça.
Non, mais il y a plein de gens qui vont l'adorer, qui vont trouver ce livre et qui vont dire que c'est une œuvre d'art de la langue française.
C'est reconnu comme tel,
oui.
C'est un des plus grands écrivains.
Voilà, c'est reconnu comme tel.
Ça vous concerne moins maintenant.
Peut-être maintenant, mais il y en a plein aussi qui ont un âge certainement plus vieux, on va dire ça comme ça, qui vont pas du tout aimer aussi, qui vont trouver ce livre extrêmement long. Bah, par exemple, moi j'aime bien Molière et tout ça, pourtant il est autant vieux que Flaubert, voire plus.
Aussi.
Plus, je te confirme. Ouais. Pour être concret, pour plagier le terme employé par Louis tout à l'heure, il n'a pas eu la Palme d'Or, mais le film dont on a beaucoup parlé, qui a eu un prix à Cannes, parce que j'ai parlé de Cannes, Mommy, vous êtes allé le voir ou non?
Oui.
Donc, alors, est-ce que c'est parce qu'on en a parlé à Cannes ou pas forcément?
Alors, en fait, j'étais obligée par ma belle-mère, donc j'avais pas le choix, donc j'y suis allée, mais j'ai bien aimé au final.
Vous avez des vies terribles, hein, des professeurs qui vous obligent à lire Madame Bovary, des belles-mères ou des parents qui vous obligent à aller voir des films. Ça t'a plu? Parce que c'est quand même un grand film.
Ouais, j'ai bien aimé.
Alors, pas très gay, lui non plus, très optimiste, mais enfin, quoique parfois aussi, parce que là, c'est drôle par moment, mais qui est quand même très bien joué.
Après, je sais
alors
pas.
Alors, Jimmy s'excuse auprès de vous en direct. Enfin, je me fais son porte-parole. Il va nous dire au revoir, puisqu'il a d'autres occupations autour des arts du cirque, je crois.
Ouais, c'est
car
ça.
Car il s'en passe des choses au lycée du Diwa. Et donc, deux ou trois vont quitter la table. Par contre, il y en a plus que Jimmy, donc il accompagne, si je comprends bien. Donc, on salue Clémence, on salue Jimmy, on salue Flora.
Non, c'est pour laisser passer.
Et.
Non, c'est
cool. On continue sur les prix. Donc, les prix pour vous, c'est pas quelque chose que vous suivez ou qui vous concerne vraiment? Dans aucun domaine? Vous qui êtes un peu plus sportif, en tout cas les sports nature, est-ce que vous ne suivez pas tout ce qui est
alors,
palmarès
par rapport au...
On t'écoute, par contre, pardon, c'est Louis, je ne voyais pas qui parlait. Louis, on écoute Lucien et Louis.
Moi, je suis pas mal, pas forcément sur les sports, on est en sport nature, donc plus sur les sports de nature qu'on pratique. Donc moi, par exemple, je suis pas mal d'escalade, le kayak, etc. Et donc forcément, moi, voir un prix, par exemple, un mec que je ne connaissais pas du tout, qui va devenir champion du monde de kayak... Je vais tout de suite aller me renseigner sur lui, etc. Donc là, pour moi, ça devient beaucoup plus intéressant parce que ça représente quelque chose. Et déjà, il y en a moins, en fait. Enfin, il y en a peut-être tout autant, mais les compétitions où ils décernent des prix sont moins importantes. Enfin, il y a que quelques compétitions importantes qui permettent de faire ressortir les personnes de valeur dans le sport.
D'accord. Quentin ? Les prix, c'est quelque chose auquel tu t'intéresses dans le domaine sportif, dans le domaine littéraire, dans les victoires de la musique. Vous n'achetez plus le disque de toute façon.
Non.
Vous achetez encore des CD.
Non, on télécharge sur internet maintenant.
Gratuitement et légalement.
Gratuitement et légalement,
pas
bien
gratuitement,
sûr.
Ça va pas ensemble, mais pour une modeste somme et légalement donc.
Voilà, bien sûr, légalement. Les prix littéraires, moi j'aime pas trop lire. Voilà, donc après je lis les livres qu'on me donne à lire. Par exemple, en ce moment là en français, on étudie La rue des voleurs. C'est un livre. En fait, au début, il est un peu ennuyant, mais après.
Ennuyeux.
Ennuyeux, ouais, pardon, excusez-moi. Mais après, il est intéressant. Mais sinon, la lecture, c'est pas trop mon truc, donc je m'intéresse pas du tout au prix. Après, les prix dans le domaine du sport. Je m'y intéresse plus que dans le domaine littéraire, puisque le sport, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est une passion. J'y passe une bonne partie de mon temps personnel et voilà.
D'accord, il y avait Lou qui voulait dire quelque chose, je crois, et puis Flora et Roman demandent la parole, et Mathieu également, et Lucien encore.
Donc moi, sacré Lucien. C'est plus pour les prix de manière générale. Je suis allé voir Mommy, j'ai adoré ce film, vraiment, je le conseille.
Moi aussi.
C'est vraiment une expérience d'une vie qui s'est. Enfin, je ne vais pas tout dire, mais qui s'est mal passée. Je ne peux pas dire la. Pas dire la fin parce que c'est franchement quelque chose qui fait traîner jusqu'au bout. On sait vraiment pas ce qui se passe, mais je l'ai pas vu. Je suis pas allé le voir parce que j'ai vu qu'il avait des prix. J'ai découvert qu'il avait eu des prix à la fin du film quand il a eu tous les Oscars, tout ce qu'il avait gagné. Et j'ai vraiment vu parce que j'ai regardé.
Oscar, je suis pas sûr.
Oscar, je sais pas. Je ne connais aucun prix de cinéma, même si j'adore ça.
C'est bien, c'est le débat, donc on a la réponse. Tu n'en connais aucun.
Ah non,
donc tu es allé voir ce film, pourquoi ?
Je suis allé voir ce film, j'ai sur un programme de cinéma, j'ai vu Mommy, avec une critique toute simple.
Que c'était un film de science-fiction ?
Pas du tout.
C'est parfois la remarque de beaucoup. Quand ils n'ont pas vu écrit, comment on écrivait Mommy ?
Justement, j'ai vu que ça parlait d'une œuvre, d'une vie qui pourrait être réel, hein, tout simplement. Je me suis dit, c'est peut-être une expérience à aller voir parce que de plein de personnes qui l'ont vu, qui m'en ont parlé, m'ont dit que c'était vraiment quelque chose à voir. Et moi qui adore vraiment le cinéma, je me suis dit, je sais pas à quoi m'attendre.
Mots, tu peux dire aux auditeurs de quoi ça parle? Pour ceux qui ne parleraient pas l'anglais, qui vivraient sur une autre planète, qui n'auraient pas entendu parler du tout de ce film, parce qu'on en a beaucoup parlé, qu'est-ce que ça veut dire Mommy, tout simplement, en anglais, et de quoi ça parle?
Alors Mommy, ça veut dire maman, donc c'est une famille québécoise. Déjà, moi je suis allé voir parce que j'adore l'accent québécois. c'est un peu à part, mais ça rajoute vraiment une touche d'humour au film parce que il est en français, enfin en québécois, mais sous-titré en français, comment dire, compréhensible de la France française. C'est un peu bizarre.
Avec pas mal de langage fleuri, hein, ouais, des insultes à la québécoise, mais c'est sympathique.
Moi qui adore le québécois, j'ai regardé pas mal de films qui sont québécois. Du coup, bah, tous les langages un peu comme ça, je les ai un peu compris et des fois ils ont traduit de manière un peu plus subtile, quoi. J'ai franchement trouvé ce film excellent et je conseille d'aller le voir que soit. Je sais pas s'il passe encore au cinéma, mais je conseille d'aller le voir de manière.
Oui, il est à peu près dans toutes les salles parce qu'il a tellement grand succès. En tout cas, dans certaines grandes salles, grandes dans le sens de grandes villes, il passe régulièrement.
Sinon, je conseille d'aller le voir sur internet de manière légale, hein, évidemment, toujours légale. Et voilà, vraiment, c'est quelque chose que vous devez aller le voir. Il est.
Tu es allé au cinéma, toi ?
Je suis allé au cinéma.
Bien, donc de manière encore plus légale.
De manière encore plus légale.
Et un peu plus cher, mais.
C'est vrai que ça reste un peu cher, mais c'est quand même. C'est autre chose, quoi.
À quel endroit tu es allé le voir ? Dans quel cinéma ?
À Cray, Eden.
À Cray, à l'Eden, d'accord. De la publicité au passage. Mais évidemment, nous avons aussi un très beau cinéma, Adi, qui à la fois présente les films, on va dire, les plus connus, les plus populaires, et aussi des films art et essai, c'est la particularité, mais je crois qu'à Cray, c'est le cas aussi. Il me semble que c'est un cinéma art et essai. Oui, Flora confirme. Je crois que Roman, Lucien, voulait intervenir, et Mathieu ?
Oui,
et Flora.
Je vais vous parler un peu, donc on revient sur le prix Goncourt. Donc je trouvais que je ne me suis pas beaucoup renseigné dessus, mais je pense qu'il est pas. Ça ne doit pas être vraiment. Assez ouvert donc à tous les âges donc pour qu'on puisse vraiment s'y intéresser
Alors c'est parfois le cas mais pour ce qui est de Lieselver, honnêtement détrompe-toi parce que c'est plutôt une écrivaine qui est créée dans un langage accessible.
D'accord.
Et le livre qu'on avait étudié avec les élèves en 2008 là, lorsqu'on l'avait reçu en salle des 12 au lycée du Diois qui s'appelait Portrait d'un écrivain en animal domestique, il l'avait plutôt bien aimé ce livre et vraiment le langage, et ce langage d'aujourd'hui voilà, c'est pas Molière et Flaubert puisque c'est vos deux bêtes noires. Et c'est plutôt quelqu'un qui a du succès parce que c'est vrai que parfois les prix Goncourt c'est des auteurs un peu anonymes auprès du grand public en tout cas, et elle vendait déjà pas mal de livres hein, parce qu'aujourd'hui on en vend de plus en plus difficilement de livres, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément beaucoup de lecteurs, n'est-ce pas Marion, mais il y en a d'autres aussi parmi les adultes, donc si dans ce cas là je vous recommande de lire des livres d'elle, j'ai pas lu le dernier du prix Goncourt mais je vais sûrement le faire, mais en revanche en tout cas celui d'avant ou deux avant parce qu'elle écrit beaucoup, qui s'appelle Portrait de l'écrivain, déjà le titre, intrigant, en animal domestique, qu'un peu entre le policier, une histoire de secrétaire, avec, enfin, il se passe des choses assez contemporaines, assez drôles, il y a pas mal d'humour aussi, et voilà, c'est à la fois sociétal, policier, celui-là, et je trouve que c'était un bon roman. Flora
Moi je m'intéresse surtout au prix des cinémas, parce que, enfin, les livres, ouais, je prends au feeling. Et le cinéma et le sport aussi. Parce que ben, le sport, j'aime bien. Et en général, je regarde tout ce qui passe. Enfin, le sport qui passe à la télé. Sauf le foot, parce que je m'endors devant. Et ben, moi, je pense que les prix sportifs, c'est intéressant. Enfin, ça permet aux sportifs les meilleurs qu'on les connaisse mieux. Et les prix du cinéma, ben, certains prix, c'est intéressant. Mais il y en a que je pense que ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Par exemple, quand on récompense un acteur, il y a des prix, on ne les connaît même pas. Enfin, prix du... je ne sais pas, en fait. Mais...
Bah dans les Césars, il y a beaucoup de prix, effectivement. Alors, ça permet aussi de mettre un peu en lumière les métiers qu'on connaît moins. Il y a le meilleur costumier, le meilleur scénario, ouais. Des gens qui sont derrière la caméra, qui sont importants pour faire un film quand même. Mais ce n'est pas forcément des noms qu'on va retenir après, ça c'est sûr. Roman ?
Oui, en fait, moi, c'était pour parler des prix pour les bouquins. En fait, moi, j'en connais aucun et je ne m'intéresse pas du tout à ces prix. Mais par contre, je sais que ça donne beaucoup d'idées à mes parents pour m'acheter des livres comme cadeau. Donc, en fait, je pense qu'au final, je pense que
en
ça sert plus à
mes... En face du micro, comme une glace, donc.
Je pense que ça sert plus à mes parents qu'à moi-même. Donc, voilà. Mais ça, je parlais plutôt du prix genre Goncourt pour
plutôt les
lycéens ou un
vont,
truc comme
ça. Bah, le concours des lycéens, c'est les lycéens qui l'ont décerné quand même.
Oui, bah voilà, bah, moi je m'en fiche, mais par contre j'ai des cadeaux de Noël comme ça.
Bah, tu t'en fiches, sauf que peut-être si un jour ça pourrait arriver, tu participes, parce que c'est des lycéennes, lycéens comme toi, tu seras peut-être flatté de savoir, ça marche pas tous les coups, mais que celui que toi tu as choisi, parce que c'est ça, c'est un jury de lycéens de différents lycées pris en France, avec des professeurs qui participent au prix, et en fait ta voix compte au même titre que les autres, donc je pense que si pour toi on te donnait 10 romans, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, en début d'année on donne à peu près 10 romans aux lycéens, de première en général, et ils doivent faire un choix, classer ses romans, dire celui qu'ils ont préféré, et si le tien est aussi celui de l'ensemble des lycéens en pourcentage, ça peut être une satisfaction, non ? Tu sais que tu as contribué à à mettre la fameuse étiquette hein, qui peut faire vendre beaucoup, prix Goncourt du lycéen qui apparaîtra dans le livret. Mathieu, chères auditrices, chers auditeurs, juste avant d'écouter Mathieu, vous avez 10 minutes pour vous réveiller. Attention, nous n'avons plus que 10 minutes ensemble. 0952 368 531, 0952 368 531. Il ne fait pas beau dehors, il pleut, c'est le moment d'écouter la radio. Vous êtes sur 107.5, vous avez en face de vous une dizaine de lycéens. Nous sommes en direct. N'hésitez pas, entre la fin de votre dessert et le verre d'eau, à nous téléphoner. Et nous sur la route.
Non,
mais
non, non, pas sur la
faut
route.
Faut s'arrêter
faut
d'abord.
Pas téléphoner
hein.
au volant.
Ah, écoutez la radio, mais ça, s'ils sont déjà en train de nous écouter, c'est pas la peine de le préciser. Enfin, si vous êtes sur la route entre Luc Andiwa et Sayor, hein. Mais autrement sur rdiwa.fr en direct partout dans le monde. Nous en étions donc à Mathieu.
Moi, j'aimerais juste rajouter un petit truc parce que je suis quand même d'une famille de littéraires et ma mère s'intéresse au prix Goncourt parce que ça lui. Enfin, ça. Ça rapporte quand même pas mal à la maison d'édition et puis ça aide parce que ça elle accompagne les auteurs et tout ça. Mais elle se rend bien compte, enfin, les prix Goncourt, ça sur le moment, ça va être vendeur, mais c'est pas comme un sportif. Ça va pas le suivre dans toute sa carrière, comme par exemple Martin Fourcade, on saura qu'il aura eu 3 ou 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques, que Fred Dégoulet, qui était un de vos élèves, a fait une grande réalisation dans les Andes et des choses comme ça.
Et oui, c'est toi alors qui m'as appris ça d'ailleurs. Enfin, je savais qu'il était dans la montagne, mais tu me disais que c'était un nom qui comptait plus encore que ce que je pensais. On le salue, hein, si jamais il nous écoute, ou s'il écoute cette émission en podcast, Frédéric, je te dis bonjour, je garde un bon souvenir de toi. Tu aurais pu être autour de la table à l'époque, la radio n'existait pas encore, a dit, mais pourquoi pas. Mais enfin, il préférait la montagne, enfin, ça n'empêche pas.
Alors qu'un auteur, ça le suivra pendant un an, il vendra des livres. Après, bon, c'est sûr que le marché du livre est un petit peu en déclin, malheureusement. Mais après, oui, ça ne suivra pas comme ça.
Mais quand même, sur le moment, ne serait-ce que financièrement, et pour faire connaître, on sait que ça marche. Hein, c'est vraiment spectaculaire le nombre d'entrées, j'allais dire, c'est pour le cinéma, le nombre de livres édités lorsqu'un prix Goncourt est sorti. Et là, quelques jours après la publication du prix Goncourt, on n'en trouvait plus dans certaines librairies connues, grandes chaînes de librairies, il n'y en a plus beaucoup. En France, je parle de pas de libraire privé, mais vous voyez ce que je veux dire, avec un sigle en quatre lettres. Là, on vend à la fois des disques, des téléviseurs et des livres. Il y en a à Valence, il y en a eu de Nacré depuis pas très longtemps. Ils me regardent, ils sont tellement éloignés de l'univers des livres, ils me disent, de quoi nous parle-t-il ? Ça commence par Fneu et ça s'arrête par la suite que vous connaissez. Mais il y a eu rupture de stock, donc il y a vraiment un effet prix Goncourt quand même, mais bon, bah, ne serait-ce que financièrement, c'est pas toujours facile de gagner sa vie quand on est écrivain. Elle, je pense qu'elle l'a gagné déjà. Lydie Salvert, elle est aussi en plus pédopsychiatre, me semble-t-il. Donc, Louis.
Ouais, on a aussi ce qui va promouvoir la vente de livres. Il va y avoir pas mal aussi de sorties de films, justement. Bon, je pense, par exemple, pour prendre l'exemple d'Hunger Games, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu Hunger Games après avoir vu le film, enfin, le début des films, parce qu'ils ont trouvé les films bien et que souvent, la réputation des livres, c'est quand même d'être mieux que les films qui sont parus à leur suite.
Marion ?
Ben moi, je voulais revenir sur les prix des livres, comme le prix Goncourt. Enfin, moi, dans mon collège, l'année dernière, il y avait le prix des Incorruptibles. Donc, je n'y ai pas participé, mais ma sœur, oui. Et donc, c'était un prix, je pense, un peu comme le prix Goncourt. Donc, on votait pour des livres suivant sa classe. Et bon, qui est moins important que le prix Goncourt. Donc, je ne pense pas que le livre avait une étiquette élue par les élèves par le prix Incorruptible. Mais ma sœur le faisait et elle était plutôt contente et satisfaite.
On a l'impression de participer quand même à quelque chose, rendre la lecture un peu plus active peut-être par ces différents prix. On se dit, j'ai modestement contribué à élire le meilleur, d'après moi, lycéen, qui en a lu plusieurs. Lou ?
Moi aussi, dans mon collège, on faisait le... Désolé.
On n'a pas le droit de tousser la radio, c'est impossible.
Désolé. On faisait le prix des
Incorruptibles. Tu sais, toi qui as la technique en plus.
Je peux parler ? On faisait le prix des Incorruptibles.
Oui, Lou, tu peux parler. Mais sans tousser.
Dans mon collège aussi, on faisait le prix des Incorruptibles.
Sans tousser.
On faisait le prix des Incorruptibles. Et je me rappelle que j'ai découvert vraiment beaucoup, beaucoup de livres. Je ne sais plus, on en avait une dizaine, peut-être un petit peu moins, 6 ou 7. Et il y a beaucoup de livres, j'en ai lu un. Et j'ai lu toute la série après parce que j'avais découvert ces livres juste par un petit truc qui se faisait dans les collèges, comme ça. Vraiment des livres géniaux. Je ne me rappelle pas spécialement des noms, mais... pas spécialement des livres fantastiques, etc. Un livre qui se passe d'un enfant abandonné qui essaie de retrouver ses parents, je crois. Vraiment magique ce livre, j'essaierai de retrouver le nom.
pour le mois prochain. Rendez-vous 17 décembre. On a la réponse. Suspense.
Non, je crois que j'ai retrouvé. Je crois que c'est Van Gogh.
Ah, tu vois, quand je te mets la pression.
Je suis pas. Oui, il est franchement.
Van Gogh.
Oula. Tu te souviens du nom?
Bah, Marion était dans le même collège que toi.
Je crois que l'auteur, c'est Timothée de Fombel.
D'accord. Vous étiez dans quel collège tous les deux?
Chapelle en Vercors. Moi, j'étais à la Chapelle.
Oui, vous n'étiez pas dans le même collège.
Non, je croyais que... collège.
D'accord.
Et franchement, ce livre, j'ai lu le premier tome dans le prix concours de, bah, des Incos, quoi. Et j'ai lu après les deux autres, trois autres tomes. Je les ai dévorés tellement j'ai trouvé ça génial. Voilà. Donc.
D'accord. C'est dit. Merci, Marion. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, du coup.
Non, c'est bon.
Alors, écoutez, on va passer à la dernière phase de cette émission. Peut-être le dernier mot. Dylan, sur
oui,
ce
bah
sujet.
C'était juste plus généralement au niveau des prix artistiques. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça permet à des artistes d'être vraiment reconnus. Et donc ce matin, là, j'ai vu en faisant quelques recherches sur ce sujet, là, j'ai vu pas mal de prix complètement inconnus, je pense, par pas mal de monde.
Il y en a un qui a bossé au moins ici. Hein. Il a fait des recherches. Non, il y en a sûrement d'autres. D'accord, ils lèvent tous le doigt maintenant, je vous dis, chers auditeurs, ils sont jaloux. Mais tu es le premier à nous le dire explicitement, à t'en servir. Qu'est-ce que tu as vu dans tes recherches?
Et donc un prix de l'audace artistique, et donc qui doit être qui doit suivre des critères un peu, enfin dont j'ai aucune idée en fait. Mais, voilà.
Originalité, j'imagine. Oui, l'audace, ça signifie ça. J'ai déjà entendu ça. Je connais pas les critères exacts.
Et donc voilà, je trouve ça intéressant parce que ça permet vraiment à des artistes d'être reconnus, même si c'est pas forcément quelque chose de vraiment très important, mais ça peut permettre après d'évoluer dans leur milieu et d'avoir de la reconnaissance de la part d'un jury.
Dernière phase de cette émission, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé, intéressé, impressionné ces dernières semaines, entre cet été et la dernière semaine? Alors je vous proposais Rosetta, je vous proposais les parents qui surveillent vous avec des mouchards sur les portables. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais ça existe, pour savoir où vous êtes, vous localiser en permanence et à qui vous téléphonez aussi. Ou la journée de la gentillesse, dont certains disent que c'est absolument ridicule, c'était il y a quelques semaines. D'autres disent, bah, après tout, ça ne fait pas de mal, un petit sourire par jour, et ça devrait être 365 jours sur 365. Mais bon, ce sujet-là ou un autre, Lou, rapidement, parce qu'il nous reste quelques minutes.
Moi, ce serait un peu sur les trois sujets en même temps. Je vais faire un petit point de vue personnel sur les trois sujets. Rosetta, j'en ai pas du tout entendu parler, à part qu'il s'est bloqué dans une crevasse, j'en sais rien d'autre. La journée de la gentillesse, je ne savais même pas que ça existait. Mais j'avoue que je me sens pas vraiment concerné parce que j'essaie vraiment d'être gentil de jour en jour, donc je veux pas faire. Mais enfin, dans le sens où j'essaie. C'est toujours, désolé, mais. Toujours essayer de positiver, c'est une phrase que je dis souvent.
Mais c'est pas un gros mot d'être gentil, hein, ah non, d'accord non. Faut pas en rire toi-même, c'est une qualité. Souvent on dénigre justement, on dit oh oui, c'est n'importe quoi, gentillesse, c'est mièvre.
Oui. Ne jamais être négatif.
Jamais.
Oui, mais il ne faut pas non plus être trop gentil parce qu'on peut se faire avoir.
Non, c'est vrai, bah, on revient au pervers narcissique et à l'amitié de tout à l'heure.
Bah, ça, c'est la différence entre gentillesse et naïveté.
C'est vrai.
Et aussi, le troisième, c'était. J'ai oublié le troisième.
C'était
les mouchards sur les téléphones portables. Moi, je me sens pas vraiment concerné par ce problème-là parce que
tu sais pas peut-être.
Non, mais dans le sens où mon téléphone bug tellement avec le réseau que je n'ai aucun problème avec ça.
D'accord. Alors, je ne sais pas si on est coupé à 13h10 pile, nos techniciens. Ne savent pas non plus, mais en gros il faut qu'on se quitte, ils me font signe. On vous remercie d'avoir été présent à cette première émission et on vous donne rendez-vous le 17 décembre, attention le 17 décembre.
C'est mon anniversaire.
On est toujours à l'antenne, oui chef? On me fait signe que oui. Donc ça sera systématiquement, je vous le rappelle, chaque dernier mercredi du mois, à l'exception de la prochaine fois, puisqu'on serait retrouvé le 24 décembre et on ne sera pas trop là. Vous non plus peut-être, chers auditrices et auditeurs, n'abusez pas des papillotes, mais on vous en reparle donc le 17. Donc le 17 décembre, 12h10, en direct sur RDIWA. Notez bien le 0952 368 531. J'ai mangé le deuxième, 368. Et merci à vous toutes et à vous tous d'être venus. Vous avez été plutôt bons pour cette première et je vous réengage pour la deuxième. À bientôt.
Merci de nous écouter.